Alors, on va parler justement de l'habitation de Dieu, donc du temple de Dieu. Et en réfléchissant et en méditant sur cette pensée, je me suis rendu compte que à l'époque de Jésus, c'était pas chose facile de se faire comprendre et de surcroît, parce que ils n'avaient pas la parole de Dieu comme nous aujourd'hui. Donc, c'était très difficile de comprendre ces paroles. Jésus sortit du temple avec ses disciples et un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Ah, c'est magnifique. Sortir d'un bâtiment, sortir de ce temple de Dieu, c'est des choses extraordinaires. Mais par contre, la réponse de Jésus aux disciples était un petit peu perturbante. Parce qu'il dira, dans Marc chapitre 13, verset 2, Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et dans le verset suivant, où il est dit que après que Jésus ait chassé les vendeurs du temple, il nous est relaté dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus leur répondit donc aux Juifs, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire, pour édifier ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Qui aurait compris ces paroles? Et dans Jean chapitre 2, au verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Aurions-nous compris ces paroles? Je pense pas. Seigneur, qu'est-ce que t'es en train de me raconter là? Il fallait 46 ans pour construire ce temple. Moi, j'aurais répondu comme les Juifs. Je serais été dans l'étonnement, dans l'incompréhension comme les disciples. Seigneur, en 3 jours, tu veux relever quelque chose où il a fallu 46 ans de travail. Alors aujourd'hui, comme je le disais avant, nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'éclairage de l'Esprit. Nous pouvons passer de la compréhension rationnelle à la dimension spirituelle. Mais eux n'avaient pas tout cela. Et dans Actes, au chapitre 7, verset 46, dans Étienne, quand il était jugé devant le Sanhédrin, fera un exposé, je vous invite à lire aussi également chez vous, Actes, donc chapitre 47, non, Actes 7, versets 46 et 47. Et là, Étienne relate devant le Sanhédrin, devant tous ces Juifs qui étaient là, devant toutes ces personnes qui étaient là, il relate un petit peu toute l'histoire d'Israël. Et à un moment donné, il arrive donc au verset 46 de Actes 7, où il dira... David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui bâtit une maison. Et en étudiant ces textes, ça m'a renvoyé justement dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi, chapitre 8, justement, quand Étienne relatait ce fait dans Actes, comme quoi c'était David qui avait trouvé grâce, que c'est Salomon qui a construit le temple, il nous a dit dans 1 Roi, chapitre 8, au verset 26-27, où il est parlé de la dédicace du temple. Quand Salomon, justement, a eu ce privilège de construire ce temple pour Dieu, il y avait cette dédicace. Ce jour de la dédicace, il dira, « Mais quoi ?» Salomon dira. Lui qui s'est investi, qui s'est engagé à construire, dira ces phrases, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. combien moins cette maison que j'ai bâtie. Ouh là 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 là, Salomon. Alors, mais le Très-Haut nous est redit, pour revenir dans Actes chapitre 7, Étienne dira, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied, dira Dieu. Quelle maison me bâtirez-vous, dit-il le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?» Oui, alors on peut s'étonner, comment se fait-il qu'il a fallu bâtir à un moment donné, tout au début peut-être des hôtels, à un moment donné il fallait bâtir, enfin ériger des pièces pour le tabernacle, ce tabernacle mobile, plus tard il fallait donc ériger un temple, mais Dieu voulait nous emmener plus loin. Toutes ces choses, ce sont des préfigurations des choses à venir. Et c'est pour ça que cette parole de Jésus était interpellée en 3 jours. Je relèverai ce temple. Mais Seigneur, de quel temple parles-tu? Eh oui. Et en réfléchissant, et dans Ésaïe chapitre 40, au verset 12, 13, 14 et 15, là également, c'est un chapitre surprenant, étonnant de la gloire et de la majesté, de la toute-puissance de Dieu, où il est dit à un moment donné que Dieu peut mesurer les eaux dans le creux de sa main. Dieu peut mesurer les eaux dans le creux de sa main, sachant que la terre est recouverte à 70 ou 80% d'eau. Dieu peut tenir tout cela entre ses mains. Et il est dit également, qui peut mesurer les cieux avec la dimension de sa paume de la main. Dieu peut mesurer l'étendue des cieux avec la paume de sa main. Extraordinaire. Alors Seigneur, comment se fait-il qu'on t'érige des bâtiments, un temple, un tabernacle, si les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Et ça nous amène justement à comprendre vraiment la grandeur et la gloire de Dieu. Et ça compte énormément pour nous aujourd'hui, qui sommes dans la compréhension au travers de la parole de Dieu et éclairés par l'Esprit Saint. Extraordinaire. Quand on médite la parole de Dieu et quand Dieu nous donne des révélations, nous donne de comprendre, oui, comme nous l'avons également chanté, on veut grandir davantage en grand lui. Et c'est des choses interminables. Alors toutes ces choses créées subsistent en lui et par lui. Tout l'univers ne peut le contenir et la foi au-dessus de toutes choses et en toutes choses. Toutes choses subsistent en lui. Dans Colossiens chapitre 1 verset 16, et c'est aussi également un verset sur lequel je m'appuie pour ma prière personnelle, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Oh, alléluia, quelle gloire! Je suis émerveillé quand je suis, la dernière fois, j'étais avec un frère qui est féru d'astronomie. Alors, j'étais suspendu à ses lèvres, je voulais comprendre. Alors, à un moment donné, il me disait que, en fin de compte, la matière qu'on voit n'est pas une matière stable, n'est pas une matière dure. Ce sont des atomes et des électrons. Eh oui. Ah, il me disait que, quand vous avez le noyau de l'atome qui est peut-être en Alsace, et vous avez l'électron qui gravite à Nice ou à Marseille. Impressionnant. Et alors, pour me faire comprendre, ben oui, moi j'ai pas ces connaissances, alors je dis, écoute, parle-moi comme un enfant, parce que... Alors, il m'expliquait les choses, je lui fais, mais alors comment ça se fait que cette matière qu'on a, elle peut être touchée, elle est tangible? Parce que, il a dit, pour te faire comprendre, c'est un petit peu certaines familles d'électrons qui composent un petit peu la physionomie. Et alors, je l'ai encore pas dit, mais en rentrant chez moi, j'ai cherché ce verset où il est dit qu'à un moment donné, Dieu peut contenir toutes les nations de la terre dans une goutte d'eau. Mais Seigneur, oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est poussière, on est atome, on est rien. Extraordinaire, quelquefois, les choses. Et alors, il m'expliquait que, enfin, ça, c'est maintenant que je vous partage un petit peu mon truc personnel, hein. Je me souviens que Frédéric Rosen le connaissait bien également, Michel Bernat. Michel Bernat, il travaillait à un moment donné dans l'industrie de la peinture où il était peintre. Et il m'a dit une fois, yo, ça fait fort longtemps, hein, il y a plus de 25 ans. Mais ça m'est resté là-dedans. Il m'a dit, la couleur blanche, ce sont toutes les couleurs réunies. Ah bon, je fais comment? Si je réunis toutes les couleurs, le rouge, le jaune, le vert, le rouge, ça donne du blanc. Ok. Alors, je répétais ça un petit peu autour de moi, mais opposition, ça n'a plus, non? Je pense que c'est bon. Mais, peut-être le frère Bernard s'est trompé, ou voilà, ou bon. Ah, vous savez, quand vous n'avez pas de retour positif, vous vous taisez. Et là, j'en ai profité. Quand j'ai vu ce frère, j'ai fait, écoute, j'aurais peut-être une question à te poser. Parce qu'on parlait de la lumière. J'écoute, est-ce que tu peux me confirmer cela? Il y a un frère qui m'a une fois dit que la peinture blanche, c'est toutes les lumières réunies, enfin toutes les couleurs réunies. Ben oui, c'est ça. Ouh, moi ça m'a fait du bien! J'ai reçu une réponse, mais ça plus personne ne l'enlève. Hein. Et alors, à moins que de trouver encore sur d'autres techniciens ou des maîtres d'œuvre en peinture qui peuvent vous expliquer encore le truc. Et alors, il est allé plus loin. Il m'a dit, ça je savais déjà un petit peu. C'est-à-dire que la lumière n'est pas jaune ni rouge. Quand vous avez un lever du soleil qui est rouge ou orangé, la lumière est blanche, blanche. Elle est orangée parce que elle est filtrée à travers les poussières qui sont en suspension dans l'atmosphère. C'est pour ça que nous avons un lever de soleil ou un coucher de soleil rouge. Mais normalement, s'il n'y a pas toutes ces particules dans les airs, elles seraient blanches. Ouais. Donc, la lumière, elle est blanche. Et alors, il m'a dit, l'arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière blanche. Impressionnant. Bon, après, on est parlé plus loin, on est allé, parce que j'avais lu aussi, moi, un petit peu, alors, bah, je suis allé, j'ai posé des questions sur les fameuses navettes, je crois que c'est Hubble, en 77-78, ils ont lancé deux navettes, qui viennent à peine de passer, je crois, en 2020 ou 21, notre système solaire. Et j'ai encore lu aussi dans un article que l'étoile, parce qu'il commence à chiffrer, à numéroter les étoiles, hein, Dieu connaît le nom de toutes les étoiles. L'homme, non. L'homme, pour les répertorier, c'est 238, ou ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et il faudrait, avec les instruments actuels, le moyen de locomotion actuel, la technicité spatiale d'aujourd'hui, il faudrait 40 000 ans de trajet pour arriver à cette étoile C238. Alors là, la grandeur de Dieu. Et frères et sœurs, je vous dis ça parce que quand Dieu dit qu'il peut mesurer l'étendue des cieux avec la paume de sa main, mes seigneurs, même les cieux ne représentent pas grand-chose pour toi. C'est extraordinaire. Et c'est ce que j'ai souvent des témoins de Jéhovah. Mais ils viennent plus, hein, ça fait des années que je viens plus. Je vais avoir une croix sur la maison, là, laissez tomber. Et je leur dis toujours, mais écoutez, vous me parlez là de vos textes bibliques, c'est bien beau. Je fais, voyez, moi, j'ai rien dans les mains. Par contre, une chose, ce que je sais, c'est que Jésus est mon sauveur. C'est une relation personnelle. Et je leur dis toujours, vous revenez le jour. Et là, je suis bien sage encore. Quand vous pouvez compter les étoiles qui sont uniquement dans votre champ de vision. Pas les autres. Uniquement celles que vous voyez. Je vous demande pas plus. Si vous arrivez à les compter, vous revenez me voir. Et on pourra parler, justement, de Dieu. Et oui. Non, ça nous amène justement à comprendre, comme ça l'a été dit dans une prière également, que Seigneur, tu es descendu de ton trône de gloire pour te faire homme, pour venir vers nous, pour habiter dans une demeure, mais laquelle? Et cette demeure qui n'est pas faite de main d'homme. Alors, les paroles de Jésus, qui pouvait les comprendre? Et de surcroît, pour les Juifs, qui disaient, mais on a un homme qui profane le temple avec ses paroles. Il dira qu'il va détruire ce temple en 3 jours, qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Et il le relèvera en 3 jours. Et c'est une parole qui a vraiment percuté les consciences, qui a interpellé, qui a choqué. Et lors de la crucifixion de Jésus même, dans Marc chapitre 15, verset 29, les passants injurièrent donc Jésus, cloué sous la croix, et secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Voilà ce qu'ils lui ont répondu. Voilà ce qui est resté dans la tête des gens, ce fameux, cette phrase avec des conséquences terribles pour eux. En 3 jours, même quand Jésus était crucifié sous la croix, ils sont venus lui rappeler cette phrase. Toi qui rebâtis le temple en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et les principaux sacrificateurs et les scribes également se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Oh, quel sauveur merveilleux. Et les paroles de Jésus ont trouvé leur accomplissement dans sa mort et sa résurrection. C'est par l'œuvre de la croix. Et comme il est dit dans Marc, chapitre 15, verset 38, au moment où Jésus était là, crucifié sur la croix, j'ai dit, et je ne sais pas si je l'ai noté, oui, l'univers entier était dans la retenue, frères et sœurs. L'univers entier était dans la retenue devant un tel élément. Comment se fait-il que le Fils de Dieu soit là, sur cette terre, cloué sur une croix? Lui qui a créé toute chose et que toute chose subsiste en lui, lui qui peut mesurer les cieux avec la paume de sa main, le voilà là, toute la création entière, tout l'univers, toutes les choses créées étaient justement dans la retenue devant un tel événement. Aujourd'hui encore, la croix reste incommensurable. Qui peut sonder les profondeurs de cette œuvre glorieuse? Plus qu'on réfléchit à l'œuvre de la croix, plus qu'on réfléchit au sacrifice de Christ pour moi, plus que je suis dans cette incompréhension rationnelle, mais par la foi, je suis éclairé, et par la foi, je suis encore conduit davantage. L'Esprit me conduit davantage encore à comprendre. Mais Seigneur, c'est interminable. C'est merveilleux. C'est glorieux. Et oui. Et là, une ère nouvelle s'ouvre pour nous. Qui autrefois se manifestait, comme je disais, par le temple, le tabernacle. Et dans ces gens, dans ces bâtiments religieux, dans ces bâtiments que Dieu voulait à un moment, il y avait uniquement une minorité de personnes qui pouvaient rentrer en contact avec Dieu dans le tabernacle, dans le temple, les prophètes au travers des autels également. Et ils offraient des sacrifices pour le peuple et entraient, eux, pour le peuple, dans la présence de Dieu. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 20, il nous est dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et ça, on rentre justement dans l'accomplissement de la parole de Dieu. En 3 jours, je relèverai le temple. Et voilà que le voile du temple se déchire du haut vers le bas. Et ça nous ouvre cette route nouvelle. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des bienvenirs. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et quand j'ai lu qu'il n'est pas de cette création, je commençais aussi à me poser des questions peut-être simples. Mais je me suis dit, mais création. Ah oui, quand vous réfléchissez, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Alors si on réfléchit, le temple que nous sommes n'a pas été fait de main d'homme. J'ai été engendré par mes parents. Mais qui m'a créé? Qui m'a façonné? Qui vous a façonné? Qui vous a créé? Dieu. Dieu a formé l'homme. Il n'y a aucune main humaine là-dedans. Et Dieu nous rencontre où? Dans le temple que nous sommes. Cette route nouvelle que Jésus a ouverte au travers de son sacrifice à la croix. Extraordinaire. Nous avons cette relation personnelle avec Dieu en nous. Alors je rejoins un petit peu Yves. Il est vrai. On peut louer Dieu avec notre intelligence. Mais la parole de Dieu, il est également dit que nous pouvons le louer en esprit et en vérité. Mais c'est vrai. On peut rester dans une stature religieuse en louant Dieu. Mais on peut aller plus loin. Et pourquoi peut-on aller plus loin? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et souvent, nous n'avons pas conscience de cela. Nous croyons que nous venons dans le temple. Mais le temple, nous sommes le temple. Et quand nous sommes le temple, nous sommes ces pierres vivantes qui s'édifient ensemble pour la gloire de Dieu. Quand nous nous réunissons à un culte, c'est cela. C'est-à-dire, nous sommes chacun un temple de Dieu. Nous sommes chacun, chacune, une pierre vivante. Pour l'édification, pour la gloire de Dieu, cet édifice de gloire. Alors, on voudrait souvent s'adresser à un pasteur, à un ancien, à un responsable, à un frère ou une sœur qui a des dons. Mais en fin de compte, la première chose, c'est qu'on peut s'adresser à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis le temple où le Saint-Esprit y habite. Extraordinaire. Alors, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais il faut savoir que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et je l'ai noté quelque part. Quand Jésus est mort sur la croix, Donc Dieu veut des choses extraordinaires. Donc il les a déjà aussi également dit que vous, au contraire, il y a une différence entre ceux qui ont accepté Christ dans leur vie et le commun des mortels ou le religieux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et chose extraordinaire, Dieu par son esprit prend place dans le cœur du croyant et le corps devient le temple de Dieu. Ça m'a fait réfléchir, le tabernacle c'était un lieu de rencontre mobile. Et quand je réfléchis sur ça, j'ai dit, je suis le temple de Dieu mobile. Je suis pas une personne statique. Je suis une personne vivante qui peut parler, qui peut bouger, qui peut se manifester. Et Dieu a fait de moi, de toi, de vous, un temple. Dites dans votre cœur, Seigneur, je suis le temple. Je suis le temple de Dieu. Alléluia. Et quand vous dites, Seigneur, je suis le temple, on ressent tout de suite l'accueil de l'Esprit de Dieu. Cette présence qui est toujours là, en permanence. En permanence. Nous sommes en permanence le temple de Dieu. Nous ne le sommes pas une fois, un jour, une fois l'autre. C'est tout le temps. Et alors, si le temple, en tant que bâtiment, là je vous ai fait, j'ai récupéré un petit schéma. Si le temple, en tant que bâtiment, est détruit, que sont donc devenus ces symboles, ces représentations, cette préfiguration du temple? Je dirais, en quelque sorte, ils sont dématérialisés pour prendre vie en nous. C'est-à-dire, les choses figées, prennent vie en nous. Et si on prend, par exemple, la porte du tabernacle, donc ça, c'est l'ensemble du tabernacle. Et quand on parle du tabernacle, on peut parler du temple, hein, c'est la même disposition. Il y a le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Donc la porte, Jésus dira dans les évangiles, « Je suis la porte ». Donc, avant d'entrer dans le parvis, donc il faut déjà passer par la porte. Et la porte, c'est un petit peu le lieu commun. La porte, le parvis, c'est un petit peu, c'est ouvert pour les autres et vers les autres. Et on arrive à l'autel de l'Holocauste. Et puis là, je dis toujours, Seigneur, l'autel de l'Holocauste, c'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus. Et je dis toujours, et j'ai cette image pour moi, hein, mais je la partage, c'est que il y a toujours en moi la croix qui est dressée. Je rentre toujours dans la présence de Dieu au travers de la croix. Et ça ne peut pas se faire autrement. Il n'y a qu'un seul sens pour arriver justement dans la présence de Dieu. Il faut passer par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Oui, il a été blessé pour nos péchés. Isaïe 53, verset 5. Brisé pour mes iniquités, pour nos iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà un petit peu l'autel de l'Holocauste et la cuve. La cuve nous rappelle donc justement du fait que les sacrificateurs se lavaient, se purifiaient. Aujourd'hui, nous avons l'eau de la parole. L'eau de la parole qui est une eau qui nous lave justement de notre incrédulité et qui suscite de la foi et confirme notre nouvelle naissance. Souvent, on baisse la tête en se disant « Ah, je suis peut-être pas mieux que les autres. » Si, tu es enfant de Dieu. Et tu es le temple de Dieu. Et en toi habite l'Esprit Saint. Et tu es de surcroît une créature nouvelle. Une nouvelle création. Une créature spirituelle. Un être nouveau. Car devant la croix, nous sommes l'être charnel. Et quand nous traversons la croix, nous sommes l'homme ou la femme spirituelle, l'être spirituel. Parce que je dis toujours, quand on passe une fois la croix, spirituellement, il n'y a plus homme ni femme, comme le dit la parole de Dieu. Donc nous sommes cet être, cette personne spirituelle. Alors, on continue le chandelier, quand on rentre déjà dans le lieu saint. Ah ben le chandelier, c'est l'effusion de l'Esprit, nous l'avons aujourd'hui. Nous sommes éclairés, édifiés par l'Esprit de Dieu. Nous avons cette nouvelle lumière, ce nouvel éclairage. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il nous a dit, Dieu nous a révélés par l'Esprit. Dieu nous a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit, j'aime bien ce verset. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Seigneur, je peux rentrer. entrer dans tes profondeurs. Et ça nous, comment je veux dire, ça nous motive, ça nous stimule. C'est pas un Dieu qui nous demande de faire des choses. Non. C'est l'Esprit qui nous conduit et nous introduit dans la connaissance et dans les profondeurs de Dieu. Il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas d'examen. C'est une continuité parce que nous pouvons être en relation avec Dieu par son Esprit. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous pouvons en sonder les profondeurs. C'est pour ça que quand on reçoit des révélations, quelquefois on reçoit des choses de Dieu qu'on a presque du mal à exprimer. Comme l'apôtre Paul dira à un moment donné, il a été ravi dans les cieux, le troisième, et il a entendu des paroles ineffables. Pouvait-il l'exprimer? Non. Il a dit qu'il a vu des choses que l'œil humain ne peut voir. Voilà. Il a vécu des choses. Donc il peut même pas en parler. Et il avait une telle humilité qu'il s'est mis à troisième personne. Je connais quelqu'un. Eh oui. Alors, recevoir les choses de Dieu, c'est extraordinaire. Quand Dieu confirme au travers de sa parole ses promesses, nous l'avons chanté. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu confirme les promesses de Dieu, ça vous concerne vous personnellement. Alors les promesses, on peut avoir tous la même promesse. Mais quand elle s'accomplit pour nous personnellement, pour mon besoin. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, on n'a pas besoin de le raconter dans le monde parce qu'il ne va pas comprendre le monde. Oh, mais t'as prié, mais oui, mais attends. Ça, c'est le pur hasard. Ça, c'est maintenant. Ça, c'est les médecins qui ont fait des choses. Ça, c'est ainsi de suite. La parole de Dieu, il est même dit, quand je témoigne quelquefois, j'ai fait un petit peu les vendanges. Par la grâce de Dieu, j'ai pu témoigner. Il commence un petit peu à me connaître, mais il faut faire attention, il faut avoir la sagesse également. Alors, j'ai pensé à un moment donné, même si un mort ressuscitait, dit la parole de Dieu, il ne croirait pas. Alors, si vous avez une révélation de Dieu, quand la promesse de Dieu s'est accomplie pour vous, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour sortir d'une situation, pour pouvoir, et ainsi de suite, mettez-y des choses dans lesquelles vous êtes en ce moment. Mais ça, c'est extraordinaire. Quand on prie Dieu, quand on s'appuie sur ses promesses et que les choses s'accomplissent. Qui l'aurait cru? Et comment as-tu agi? Jamais je n'aurais pensé à ce que tu agis de telle ou telle manière. Ou quelquefois Dieu nous laisse dans une situation douloureuse parce que il est quelquefois plus porteur spirituellement de rester dans la souffrance parce qu'on s'approche quelquefois plus de Dieu quand on est dans une situation difficile. J'ai été touché récemment par une sœur que j'ai visitée. Et son gendre est touché premièrement par un cancer de la peau. C'est un frère qui souffre énormément, mais qui garde ça pour lui pour pas trop le répandre autour dans sa famille. Il est déjà très éprouvé par cette situation. Et de surcroît de ce cancer de la peau, il commençait déjà à avoir la peau qui se fissure, qui se lacère et commence déjà à avoir des saignements de la peau à différents endroits. Et là, elle m'a dit que de surcroît, il doit encore se faire opérer d'un autre problème. Et moi, ce qui m'a touché, j'étais presque aux larmes. Quand elle m'a dit, toute la famille, son épouse et ses enfants, ont prié. Prier pour leur père. Extraordinaire. J'avais presque envie de faire avec. J'ai entendu ça. Ah oui. Ah bah Dieu permet quelquefois ces choses-là. On ne sait pas comment et pourquoi. Mais quand je vois et quand j'entends ça, toute la famille s'est réunie pour jeûner dans l'intimité dans le cercle familial. Mais ça, c'est beau. Qu'est-ce que j'aimerais vivre une chose comme ça? Mais pour vivre cette chose comme ça, il y a une personne qui souffre. Allez comprendre. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais en tout cas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous avons justement à prier les uns pour les autres, car l'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. Et nous avons la table des propositions. Nous avons vu le chandelier, la table des propositions. Ah ben, nous allons prendre la Sainte Cène après. C'est exactement cela. La commémoration, se rappeler. Et c'est pas quelque chose de figé, parce qu'on pourrait mettre un tableau ici, contre le mur, avec une coupe et du pain dessiné. Non, c'est quelque chose de vivant qu'on prend, on commémore, on prend du pain, on boit du vin, pour justement se rappeler du sacrifice de Christ à la croix pour moi, le souvenir à la croix, le fait de pouvoir prendre du pain, prendre du vin. Ça accompagne justement la mémoire du sacrifice du Christ. L'Arche de l'Alliance. Oh, l'Arche de l'Alliance. Et oui, cette porte nouvelle, cette ère nouvelle au travers du sacrifice de Christ est ouverte, le voile s'est déchiré. On peut rentrer aujourd'hui. Enfin, on est dans le lieu saint. Que ça représente? Que représente le lieu saint pour nous aujourd'hui, là? Ben, c'est tout simplement la présence de Dieu. Nous l'avons déjà dès le départ, la présence de Dieu. Mais ce qui est très important, c'est que c'est nous, personnellement, qui avons une relation avec Dieu. Ah, si on peut se faire aider, je ne dis pas, par un frère ou une sœur qui peut confirmer, ou comme je disais avant, quand j'entends des belles choses, ça me confirme ce que j'ai, c'est une bonne chose. Mais au préalable, nous avons, nous, personnellement, et cette communion que nous avons personnellement avec Dieu, elle doit croître, elle doit grandir. Elle doit se former en nous. Nous devons être sensibles à ce que Dieu nous dit. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident au début. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu qui résonne en moi? Est-ce que ce sont pas mes propres pensées qui sont en train de m'initier, de me conduire? Alors, discerner la voix de Dieu en moi, c'est tout un apprentissage. Eh oui. Alors, devant l'Arche de l'Alliance. Ah ben devant l'Arche de l'Alliance, il y a ce terme qui m'est venu, le tout est accompli. Devant l'Arche de l'Alliance, tout est accompli. Et je disais maintenant, avant, dans Jean chapitre 19, verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, donc, quand il était cloué à la croix, il dit, tout est accompli. Nous avons ce livre abstrait auprès de Dieu. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors là, également, quand on voit cette volonté de Jésus de monter sur la croix pour venir nous sauver, quand on voit que il l'a fait délibérément, volontairement, il a donné sa vie. Et là, il y a encore quelque chose, il nous a dit, baissant la tête. Jésus, à la croix, dans cette souffrance, la tête n'est pas tombée par la douleur et la souffrance. Il a baissé la tête et l'a rendue l'esprit. C'est-à-dire que Dieu n'a pas cherché son esprit. Jésus l'a donné et l'a baissé la tête. Ce qu'aucun homme n'aurait pu faire, ou ne peut faire. Aujourd'hui, quand un homme meurt, ben, il se décompose et c'est fini, il tombe. Je disais ça parce que aux informations hier soir, j'ai encore entendu que ils initient de plus en plus des jeunes à faire le massage cardiaque. Et cet homme disait à un moment donné qu'il a été secouru par un jeune, ils faisaient un peu de basket ensemble, pour faire court. Et voilà, il est tombé sur le terrain et puis il a dit à un moment donné que son cœur, poum, s'est arrêté. Poum, il est tombé. Jésus, c'est pas cela. par ses souffrances. Et là, je dis que aucun homme n'aurait pu supporter ce que Jésus a supporté. Non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Et Jésus n'est pas tombé pour mourir. Il a donné sa vie, il a baissé la tête. Extraordinaire. On voit encore là cet acte volontaire pour moi, pour vous. Alors, y avait-il dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi. Et Jésus a accompli la loi pour nous, afin de nous affranchir de la loi du péché et nous introduire dans la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sous la loi de l'Esprit et de la grâce. Extraordinaire. Dieu a gravé les lois dans notre cœur. Nous savons très bien ce que nous faisons. Nous n'avons pas besoin de prendre les 10 commandements pour savoir si nous avons mal agi. Dieu a gravé ces lois de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est dans Romains 8, chapitre 2. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et cela, afin que la justice et la loi fussent accomplies en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc aujourd'hui, nous marchons selon l'Esprit. Et dans Hébreux chapitre 8, verset 10, il nous est dit que je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, table de la loi, il y avait également la manne, ce pain. Jésus dira, je suis le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dira-t-il dans Jean chapitre 6, au verset 51. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. La parole de Dieu aujourd'hui devient esprit de vie pour nous. Extraordinaire. Aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons ce secours, cette aide de l'Esprit, comme ces disciples qui ont entendu ces choses, ces paroles difficiles à comprendre. En 3 jours, je rebâtirai le temple. Ils n'avaient pas l'éclairage de l'Esprit comme nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Quand Jésus dira à un moment donné à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Quand Pierre a dit, « Jésus, tu es le Fils de Dieu. » Jésus lui répondra, « Tu as reçu ces choses de Dieu. » Si nous ne recevons pas la révélation de Dieu, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous pouvons prononcer ces paroles. Oui, Pierre, tu as reçu cette révélation de Dieu. C'est pas venu de la pensée de Pierre. Alors, il y avait la manne, et puis après, dans cette arche de l'Alliance, il y avait le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, c'est ce bâton qui a fleuri, et qui a porté justement du fruit. Pour nous, c'est la puissance de vie, la résurrection. Et Jésus dira, ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra. Et le verset que j'aime bien, c'est Hébreux 4, verset 16, pour conclure. Approchons-nous donc avec assurance. Nous allons prendre la Sainte Cène après. Du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je ne sais plus si c'était dimanche dernier ou dimanche avant. En introduction à la Sainte Cène, on ressent souvent cette réticence de s'approcher de cette table pour prendre justement ces éléments parce qu'on se sent indigne. Et j'avais reçu cette image d'une grande propriété, et vous en avez déjà tous vu, des grandes propriétés où il y a vraiment des murs en pierre de taille qui encadrent toute la propriété. Et je voyais là une petite porte, parce que effectivement, on peut y avoir l'entrée principale, mais puisque la propriété est grande, il y a des portes intermédiaires. Et je voyais une petite porte intermédiaire dans ces murs. Et ça m'a fait penser que moins qu'on s'approche de la croix, plus que cette porte aura justement sera enherbée, il y aura des ronces, et moins on va s'en approcher. Moi, on va prendre la poignée de cette porte pour l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a-t-il de l'autre côté? Ben, de l'autre côté, il y a un jardin fleuri. Il y a des choses bonnes. Il y a le parfum de bonne odeur. Ce parfum de vie. Ce parfum de l'espérance de Dieu. Et pourquoi s'en priver aujourd'hui? Parce que j'ai fauté. Parce que j'ai subi un échec. Parce que je suis triste. Parce que je n'ai pas compris la parole de Dieu et parce que peut-être Dieu n'agit pas comme je voudrais. Je me priverais de la Sainte Cène. Non, frères et sœurs. Ne laissez pas la végétation envahir cette porte d'accès. Je disais avant, Jésus est la porte. Prenons ce privilège et approchons-nous du trône de la grâce. Car Dieu dira, si quelqu'un a péché, quiconque s'approche de moi, se repentit, confesse ses péchés, je l'effacerai, ses péchés, ses transgressions. Et oui, par la foi, mon Dieu Seigneur, merci, car je veux prendre un nouveau départ, je veux redémarrer. En prenant sa Sainte Cène, je fais un acte de foi. Amen, je fais un acte de foi. Ne nous privons pas de ces choses. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple que je suis, j'adore Dieu. Et alors, on peut aller plus loin, mais je m'arrête là. Quand je réfléchis à la transfiguration de cet époque passée. Ce que Jésus vivait à l'intérieur s'est exprimé au travers de son corps. Cette lumière de vie. Et nous pouvons faire pareil. Seigneur, aide-moi à exprimer ce que j'ai au fond de moi. Aide-moi à confesser ta promesse par la foi, afin que les choses extérieures bougent, changent, que ce soit un problème physique, un problème psychique, moral, ou des problèmes, des difficultés matérielles, financières. Seigneur, aide-moi à avoir cette expression de foi au travers de moi. Et quand je dis ça, au travers de moi, c'est que quand on prie et quand on a une attitude de foi, il y a le comportement qui suit, il y a l'action qui suit. Il faut que je mette tout en œuvre qui converge vers ce que je veux, vers le but. C'est pas comme si on déposait un paquet, Seigneur, voilà les promesses, je donne ça, puis je pars. Dieu demande de faire notre part également. C'est comme être libéré de l'alcool, puis continuer à boire de l'alcool, c'est pas cohérent. Il faut faire des efforts. Ça marchera peut-être pas du premier coup. Mais du fait qu'on s'engage à faire un effort quand nous sommes dans l'addiction, quelle qu'elle soit, Seigneur, je veux faire cet effort. Ben oui, on échouera une fois, deux fois, trois fois, ou X fois, je ne sais. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cet acte de foi sur la promesse de Dieu. Seigneur, je sais que tu peux me délivrer de cette situation. Mais pour que je sois délivré de cette situation, il faut que je m'engage également. Seigneur, aide-moi à plus toucher ce verre, à plus toucher cette télévision, à plus toucher cette télécommande, à plus toucher ces jeux. Et oui. Continuez la persévérance. Alléluia. Je vous invite à vous lever et je pense qu'on va introduire avec la Sainte Cène. Alléluia. Amen. Et dites dans votre cœur que je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et faites un petit peu ce cheminement-là, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix en moi. Alléluia.